Et merci aux organisateurs et à Michel Vaubourdol pour leur invitation à ce très beau congrès de Saint-Malo. Ces images illustrent le cadre général de mon intervention avec un laboratoire central, l'Institut fédératif de biologie au CHU de Toulouse, et les principaux services d'urgence, ou les différents services d'urgence du CHU, sur le site de l'hôpital Purpan, avec les urgences adultes, à droite la maternité et également l'hôpital des enfants, et puis le site de l'hôpital Rangueil avec son service d'urgence. Alors, la pandémie Covid liée à l'émergence du SARS-CoV-2 a été à la fois un révélateur d'insuffisance organisationnelle dans les capacités diagnostiques et également logistiques, mais également un booster dans les avancées technologiques, puisque les vaccins ARN messager, les anticorps monoclonaux ne concernent plus maintenant uniquement le SARS-CoV-2, mais également d'autres pathogènes respiratoires, en premier lieu le virus de la grippe, le VRS également, et puis d'autres champs de la médecine. Alors, les effets de cette crise sanitaire en termes de circulation des virus ou des pathogènes respiratoires en général donc, a été considérable. Puisque, comme cela est illustré ici, on a pu observer à partir d'avril 2020 une diminution illustrée donc sur le graphe supérieur de la circulation du virus de la grippe A et de la grippe B pendant presque 2 ans. Et il a été observé également une diminution drastique de la circulation des autres virus respiratoires, comme cela est illustré dans le graphe inférieur, même les plus fréquents, comme les rhinovirus en jaune ou les coronavirus saisonniers. Malheureusement, nous sommes revenus actuellement à la situation initiale. Alors, cet impact sur la circulation des virus était bien sûr lié donc aux mesures sanitaires, en particulier des mesures de confinement et les mesures barrières. En fait, nous sommes revenus maintenant à la situation initiale, avec même une recrudescence de certains pathogènes, comme par exemple les mycoplasmas pneumoniae, comme actuellement donc l'agent de la coqueluche, et également le parvovirus B19, qui est en situation épidémique en France et dans de nombreux pays européens. Alors, l'approche syndromique se définit par l'utilisation d'une méthode permettant la détection simultanée de pathogènes, et ceci de manière rapide, et ces pathogènes étant responsables des mêmes symptômes cliniques, ce qui permet évidemment une prise en charge rapide dans d'un temps du soin, et ces prises en charge peuvent être évidemment très bénéfiques à l'échelle individuelle ou collective. Alors, les tests syndromiques peuvent se répartir en 2 catégories, donc des tests basés sur la détection d'acides nucléiques, mais également la détection d'antigènes. Pour ce qui est de la détection d'antigènes, ce sont des tests d'immunochromatographie qui sont utilisés. Et pour les tests d'acides nucléiques, leur détection est assurée donc par des techniques d'amplification génique ou bien des techniques d'amplification isotherme. Et ces techniques d'amplification isopère reposent sur le principe de la TMA, de la lampe ou de la NIR. On distingue 2 principaux formats. Ces formats donc s'opposent à la réalisation de tests dirigés contre tel ou tel pathogène. Donc c'est un peu arbitraire, mais au moins on distingue ce format lowplex, moins de 5 cibles, et un format multiplex avec la détection de plus de 5 cibles, pouvant aller jusqu'à la détection de 20 à 30 pathogènes. Alors, ces tests peuvent être réalisés dans les services de soins, en biologie délocalisée, ou bien en laboratoire central, et leur mise en œuvre peut être soit systématique, soit dirigée contre orientée pour des patients à haut risque de forme grave, ou des patients présentant des manifestations cliniques sévères. Alors, le spectre clinique est très large. Bien sûr, cela concerne les pathogènes respiratoires, mais aussi les pathogènes associés aux infections du système nerveux central, les pathogènes gastro-intestinaux, et puis d'autres pathogènes, par exemple les virus associés ou les pathogènes associés à des fièvres hémorragiques. Alors, dans notre expérience au CHU de Toulouse, l'implémentation de l'approche syndromique a été réalisé en fait en plusieurs étapes avant donc la crise sanitaire, pendant et après la crise sanitaire. Avant la crise sanitaire, en fait, les tests étaient surtout réalisés en laboratoire. Pendant la crise sanitaire, on a pu observer dans notre centre, mais également dans d'autres centres, un switch vers donc la réalisation de ces tests dans les services d'urgence en biologie délocalisée. Et ceci a été particulièrement utile pour la détection du SARS-CoV-2. Et la phase post-crise sanitaire que nous connaissons actuellement peut être qualifiée de phase, je dirais, de consolidation ou d'implémentation au-delà du SARS-CoV-2 pour détecter d'autres pathogènes respiratoires. Alors, l'implémentation au CHU de Toulouse a été assez rapide entre la deuxième et la troisième vague. Au moment de l'émergence du variant Alpha. Et donc, grâce aux techniques, au séquençage des acides nucléiques, nous avions pu modéliser la diffusion de ce variant et observer que la proportion représentée ici en rouge de ce variant Alpha augmentait de semaine en semaine et il diffusait très rapidement. Et nous avons été confrontés vraiment une problématique majeure. Donc nous n'avons pas pu résoudre, qui était celle de réduire le temps de rendu de résultats pour les services d'urgence, et donc ceci malgré des efforts de priorisation des examens, bien sûr donc un travail H24, 7 jours sur 7. En fait, les délais d'acheminement des examens, des échantillons étaient beaucoup trop longs. Et il en était de même pour l'enregistrement donc des examens au niveau du système d'informatique de laboratoire. Donc ceci nous a amené donc à installer donc le système ID Now d'Abbott. Ce système donc trois instruments par site, 40 à 50 tests par jour. Cela a permis donc nous avons également réalisé une connexion au système informatique de laboratoire d'emblée, donc ce qui a été également un élément important donc pour le laboratoire et les équipes. Et donc la formation du personnel a été également très rapide et donc d'ampleur, puisque 90 personnes ont été formées sur un site et 68 personnes sur un autre site. Au total, donc, ça a été un succès majeur, avec une forte réduction du délai de rendu de résultats de 8 à 12 heures, une forte réduction des appels téléphoniques au laboratoire, qui demandaient évidemment les résultats les plus urgents. Et en fait, le taux de résultats invalides a été très faible dès le début et s'est poursuivi dans le temps. Or, l'impact clinique donc de la biologie délocalisée dans les services d'urgence pour la détection du SARS-CoV-2 a été évalué dans différentes études, donc monocentriques ou multicentriques. Donc ces études ont évalué le système ID Now, donc comme au CHU de Toulouse, ou d'autres systèmes comme le système de Kiastat-DX. En ce qui concerne les trois études monocentriques, elles vont toutes dans le même sens, puisqu'il a été observé une réduction du délai de rendu de résultats, bien sûr, et un impact également sur la durée de séjour aux urgences. Et en ce qui concerne l'étude multicentrique de la PHP, donc dans cette étude, la réduction du délai de rendu de résultats est passée de 10 heures à 3 heures, et la réduction de la durée de séjour aux urgences est passée de 18 heures à 7 heures. Alors, qu'en est-il de l'impact clinique des techniques de PCR multiplex en dehors d'une situation de crise sanitaire? Donc, un grand nombre d'études ont été réalisées. Une méta-analyse donc publiée par Clark en 2023 a regroupé 27 études donc sélectionnés sur des critères de qualité, totalisant plus de 17 000 patients. Donc les résultats sont présentés ici en termes de délai de réduction, des résultats, et donc sont présentés en fonction de deux groupes, les études relevant de d'essais cliniques randomisés et les études observationnelles, le plus souvent des études avant-après. Donc comme vous pouvez le voir à droite, pour ce qui est des essais cliniques randomisés, l'utilisation de la biologie délocalisée par rapport à un diagnostic conventionnel en laboratoire a permis une réduction donc du délai de rendu de résultat de 25 heures. Et en ce qui concerne les études observationnelles, eh bien, la réduction était de 22 heures, donc soit au total une réduction considérable de presque un jour. En ce qui concerne la durée de séjour, l'impact, donc durée de séjour aux urgences, donc c'est l'impact sur cette durée de séjour a été également significative, puisque dans les études cliniques, essais cliniques randomisés, donc c'était d'une demi-journée, et un peu plus d'un jour dans les études observationnelles, donc soit à peu près un jour dans la durée de passage aux urgences. La mise en place de mesures appropriées de prévention des infections a été impactée par la mise en place de la biologie délocalisée de manière significative. Il en a été de même, et je ne rentrerai pas dans le détail des études, pour ce qui est du recours à l'utilisation appropriée d'antiviraux, en particulier donc pour le traitement de grippe chez des personnes donc à risque de forme grave ou des personnes présentant des manifestations graves. En ce qui concerne la proportion de patients traités par des antibiotiques, en fait, ces études n'ont pas montré, à l'exception d'une, et la méta-analyse de manière globale ne montre pas d'impact majeur dans la proportion de patients traités par les antibiotiques, et il en est de même pour ce qui est de la durée donc d'utilisation des antibiotiques. Donc pas de différence selon que il y a de la biologie délocalisée ou pas. Et en termes de mortalité, il n'y avait pas non plus dans cette méta-analyse de différence. Alors, une autre méta-analyse a été réalisée, donc elle concerne les études ayant évalué l'utilisation d'un test rapide aux urgences, ces études ont été sélectionnées là dans le cadre uniquement d'essais cliniques randomisés. Donc ces études ont évalué différents types de tests, donc le système Filmaré de Biomérieux, donc le système Kiastat-DX de Kiagen, et également donc le système GeneXpert de Cifade. Et le comparateur était donc pour les études les plus anciennes, donc l'absence de tests, ou pour les études les plus récentes, donc une approche conventionnelle, donc par PCR ou des cultures microbiologiques. La caractéristique de ces études qui ont été sélectionnées, au total il y en avait 12, donc ces 12 études rassemblaient plus de 6000 patients et c'était essentiellement une population pédiatrique à 84%. Et les principaux résultats obtenus sont résumés sur ce tableau. En termes d'utilisation d'antibiotiques, là encore, il y avait peu ou pas de différence. En ce qui concerne, par contre, l'utilisation d'antiviraux, il y avait une augmentation de l'utilisation d'antiviraux, dont l'utilisation appropriée en cas de détection d'un virus grâce aux tests rapides. Moindre recours aux examens radiologiques et aux examens sanguins également. Pas d'impact en termes d'analyse d'urine ou de culture microbiologique. Et pas d'impact non plus dans ces études sur la durée de séjour aux urgences, le retour aux urgences ou les hospitalisations. Il importe de noter que, toujours dans cette étude, que pour les patients ayant eu accès à un test virologique rapide, en cas de positivité du test, il a été noté une réduction d'utilisation des antibiotiques, comme vous pouvez le voir dans la partie basse du forest plot. Et lorsque l'on regarde une analyse effectuée donc en sous-groupe, de manière globale, pas de différence dans les prescriptions d'antibiotiques en fonction de la disponibilité du test rapide, quel que soit, que ce soit en termes d'âge, que ce soit en termes de type de test, du nombre de cibles, monoplex ou multiplex, également du type d'étude et du risque de biais. Et également, donc, en fonction du mode de financement, selon le mode de financement de l'étude. Donc, en fait, cette absence d'impact sur les prescriptions d'antibiotiques en fonction de la disponibilité du test peut s'expliquer probablement par la prise en compte d'une possibilité de co-infection donc bactérienne et ou de surinfection. Et dans ce contexte-là, donc les biomarqueurs donc de réponse de l'hôte peuvent présenter un intérêt lorsqu'ils sont associés à un test viral rapide, puisque plusieurs études ont montré qu'il était possible d'éliminer avec une bonne valeur prédictive négative donc une infection bactérienne. Dans une étude, la valeur prédictive négative avec deux biomarqueurs MXA et CRP était supérieure à 92%, et dans d'autres études, avec trois biomarqueurs à droite, dont TRAIL, CRP et IP10, cette valeur prédictive négative était supérieure à 98%. Alors, l'étude CAP-NOR est une étude monocentrique conduite en Norvège, et cette étude a évalué un test moléculaire syndromique, le système Filmabré de Biomérieux, chez des adultes admis aux urgences et atteints d'infections respiratoires basses. Dans cette étude, 374 patients donc, ont été randomisés en deux groupes, un groupe ayant eu un diagnostic avec le système Filmabré et un groupe ayant eu un diagnostic par une approche conventionnelle. Comme vous le voyez sur la courbe de Kaplan-Meier à droite, la proportion de patients traités de manière appropriée était significativement plus importante que le groupe contrôle, et le délai de mise en œuvre du traitement était également plus rapide. Une autre étude, l'étude OptiPAC, est une étude multicentrique française, donc conduite cette fois-ci en population pédiatrique. Cette étude a donc concerné 11 centres et a été coordonnée par Émeric Canté au CHU de Saint-Étienne. Et donc dans cette étude, 499 patients ont été randomisés en deux groupes. Un groupe ayant reçu un test syndromique rapide, il s'agissait encore du système donc Filmabré de Biomérieux, et un groupe contrôle d'effectifs équivalents. Et donc au total, il a pu être observé que dans 68,6% des patients du groupe Filmabré, donc il y avait donc des prescriptions de traitement antimicrobien appropriées, contre 48,2% dans le groupe contrôle. Donc la différence était significative. Alors qu'en est-il des recommandations françaises? Alors donc depuis décembre 2023, l'ensemble des sociétés savantes ont recommandé les tests moléculaires multiplex et précisé l'intérêt d'un panel étroit, moins de 5 cibles, quadriplex, ou d'un test multiplex avec un nombre de cibles de plus important. Alors, pour les populations listées dans ce tableau, le test quadruplex est recommandé dans toutes les situations. Et en ce qui concerne certaines populations, le test multiplex était recommandé préférentiellement, en particulier pour les personnes immunodéprimées et les personnes donc présentant des formes graves en réanimation. Donc, pour ces personnes-là, le test multiplex était également recommandé. Le test multiplex pouvait présenter également un intérêt en cas de négativité d'un test quadruplex pour les personnes adultes ayant des manifestations graves, en cas de négativité donc du test quadruplex, et également donc pour les personnes hospitalisées dans des services de gériatrie. Alors, en ce qui concerne les enfants, la femme enceinte et les soignants, là encore, les tests quadruplex ont été recommandés. Et en ce qui concerne les tests multiplex, ils sont préférentiellement recommandés pour les enfants, qu'ils aient ou pas des formes graves, ce qui n'était pas le cas donc pour les femmes enceintes ou les soignants au contact de personnes à risque. Alors, les tests virologiques ne se résument pas uniquement aux tests moléculaires. Il existe des tests antigéniques. Et il existe également la culture virale qui permet soit un isolement viral, soit une mesure précise de l'infectiosité. Néanmoins, ces techniques, si elles sont intéressantes sur le plan physiopathologique, sont inaccessibles à une activité de routine. Et donc plusieurs études ont évalué la cinétique d'évolution des paramètres. Il importe de noter que pour les tests antigéniques, même si leur sensibilité est moindre au moment des symptômes cliniques, leur durée de positivité coïncide en fait avec la présence de virus infectieux. En ce qui concerne les tests moléculaires, plus sensibles, leur positivité donc, va être prolongée alors que donc du virus infectieux donc ne sera plus présent. Dans ce contexte, il nous a paru intéressant d'évaluer un test multiplex antigénique donc de la société AAZ et de comparer les résultats de ce test par rapport à une approche moléculaire multiplex qui a été réalisée à partir du tampon du dispositif antigénique. Donc cette étude a été effectuée en population pédiatrique puisque c'est dans cette population dans laquelle les tests antigéniques ont une meilleure sensibilité par rapport à la population adulte. Donc les résultats sont résumés sur ce tableau. Donc comme vous le voyez, donc la sensibilité du test antigénique multiplex était très bonne pour le virus de la grippe, à 75%. Pour ce qui est du VRS et du SARS-CoV-2. Et comme attendu, bien sûr, nous avons, par l'approche moléculaire, détecté, donc ce qui est surligné en bleu, des virus ou des acides nucléiques viraux, avec le test multiplex, donc qui était un test hologique, fait en laboratoire. Donc c'était attendu, puisque le test antigénique ne cible pas ces pathogènes. Il s'agissait de rhinovirus, de métapneumovirus, d'adénovirus et de para-influenzae. La plupart du temps, d'ailleurs, ou dans 50% du temps, ces virus étaient détectés en situation de co-infection avec les trois virus majeurs détectés par les tests antigéniques. Alors, il importe de noter que les techniques de métagénomique sont en développement rapide et qu'elles seront assez rapidement envisageables, puisque au moins dans le cadre donc d'études, il a été montré qu'il était possible de détecter des pathogènes en quelques heures et qu'il pouvait y avoir également des informations donc sur la résistance aux antibiotiques en détection des marqueurs au niveau génomique. Donc ces études-là ou ces approches-là sont aussi potentiellement intéressantes pour l'avenir. Alors, à ce qui concerne les pathogènes gastro-intestinaux et l'approche syndromique dans ce cadre-là, différents dispositifs existent. Cette approche est largement utilisée dans les laboratoires. Donc, les systèmes se différencient en fonction de l'extraction d'acides nucléiques intégrés ou pas dans le dispositif. Ces systèmes permettent la détection de différents virus, listés ici, mais également de bactéries et de parasites. Alors, dans une étude que nous avions réalisée donc il y a une dizaine d'années, nous avions pu déjà montrer que donc ces techniques étaient particulièrement performantes et donc ont remplacé assez rapidement les tests conventionnels. Donc meilleure performance pour la virologie, mais aussi en bactériologie et en parasitologie. Donc, pour des enfants admis aux urgences, cette étude avait, donc enfants diarrhéiques, cette étude avait montré qu'il était possible de détecter dans 78% des cas un pathogène digestif. Dans 70% des cas, il s'agissait de virus, 25% des cas bactéries et 5% parasites. Par contre, dans la même étude, dans les unités de néonatologie et dans les unités d'hématologie, la fréquence de détection des pathogènes était beaucoup plus faible, 13 et 17%, ceci en lien avec le fait que ces diarrhées chez ces enfants et dans ces services étaient plutôt liées à des causes donc médicamenteuses plutôt que liées à des pathogènes. Pour ce qui est des pathogènes du système nerveux central, méningite et encéphalite peuvent être diagnostiqués de manière performante par donc des systèmes multiplex. Une méta-analyse que je trouve très intéressante a été réalisée avec le système FILMARRAY de Biomérieux. Donc là, c'est le même dispositif qui a été évalué dans différentes études. Et dans cette méta-analyse, donc, il a pu être observé une très bonne spécificité et une sensibilité bonne, à l'exception d'une étude. Donc au global, la valeur prédictive positive était de 88,1% et la valeur prédictive négative de 98,7%. Une autre méta-analyse a été réalisée avec le même dispositif. Et là, donc, cette méta-analyse s'est intéressée à la performance pathogène par pathogène. Donc, la référence qui a été utilisée pour évaluer la performance a été reposée soit sur des critères microbiologiques, c'est-à-dire la détection du pathogène par des PCR virales ou donc de la culture sur le liquide cérébrospinal et des hémocultures, soit avec ces mêmes critères, plus des critères cliniques. C'est la référence 2 sur ce tableau. Donc on voit qu'en termes de spécificité, quel que soit le pathogène, les performances sont excellentes. En termes de sensibilité, les performances sont très bonnes pour la plupart des pathogènes, mais pour certains d'entre eux, elles sont suboptimales. Et donc ceci est surligné en bleu dans le tableau, en particulier pour Haemophilus influenzae, Streptococcus agalactiae, Escherichia coli et Listeria monocytogenelle, ainsi que l'herpès 1, donc pour la virologie. Quand on regarde la colonne de sensibilité, eh bien les chiffres sont un petit peu plus faibles, entre 75 et 80%. Enfin, l'approche syndromique peut être utilisée pour détecter de manière performante des agents responsables de bioterrorisme. Ceci donc a pu être observé dans différents pays, principalement aux États-Unis, et plusieurs agents ont été impliqués, principalement le bacille du charbon. Donc le système Global Fever de FILMARRAY donc permet de détecter 19 cibles en une heure et avec simplement 2 minutes de manipulation. Donc c'est une approche très performante. Donc comme vous pouvez le voir, 9 virus, la plupart responsables de fièvre hémorragique, mais également des arbovirus. Donc 6 bactéries et 4 protozoaires donc, sont inclus dans ce panel. Mais là encore, les techniques de métagénomique seront particulièrement utiles, puisque donc 2 études ont déjà été réalisées, en tout cas publiées, l'une en France et une autre aux États-Unis. Et l'approche métagénomique que nous utilisons à Toulouse fédère 3 entités complémentaires sur le plan des techniques de séquençage, long read ou short read, et complémentaires également en termes de capacité, et enfin complémentaires bien sûr en termes d'expertise en santé humaine, animale et environnementale. Donc pour terminer, je suis convaincu que donc les leviers de développement et les enseignements de la crise sanitaire donc sont des éléments essentiels pour l'approche syndromique. Le diagnostic rapide de pathogènes respiratoires donc qui co-circulent, comme je l'ai souligné, est crucial. De même que la suppression ou le contournement des délais incompressibles. Par la biologie délocalisée, donc sont des éléments essentiels pour une prise en charge optimale et la mise en place de mesures préventives. Des algorithmes pour la priorisation des tests ou leur combinaison doivent être adaptés en fonction du type de population, mais également en fonction, je dirais, de la situation épidémiologique. Donc, par exemple, en termes de saisonnalité ou dans un contexte d'émergence. Et enfin, des approches de coût-efficacité, des études de coût-efficacité sont nécessaires, mais pour l'instant, elles sont encore limitées. Enfin, je voudrais terminer en remerciant tous mes collègues au laboratoire de virologie, toutes les personnes impliquées dans la biologie délocalisée au CHU, le centre hospitalier de Lavaur et bien sûr mes collègues dans le département d'urgence du CHU, mes collègues à l'école vétérinaire et également donc sur la plateforme génomique toulousaine. Je vous remercie.